Je vous invite à regarder ce qui se passe dans ce célèbre récit. Mais je vous invite à regarder ce qui s'y passe en dehors de toute autre considération. Par exemple, cette petite chose qui dit que... Bon, là, on a des gens qui marchent, hein, des pèlerins. Les pèlerins d'Emmaüs, c'est le nom que la tradition, le titre que la tradition a donné à ce célèbre récit. Et ça m'a toujours un tout petit peu étonné, enfin ça me plaît bien. Par exemple, imaginons que vous fassiez un pèlerinage de Paris à Brest. Et on vous appellerait les pèlerins de Brest, alors qu'en fait vous êtes des pèlerins de Paris. Cette façon de désigner l'identité d'un pèlerinage vers la destination, c'est plus intéressant que d'indiquer la provenance. Selon la Bible, c'est plus intéressant le lieu où l'on va que le lieu d'où on vient. Et peut-être le lieu où on est aussi. Donc tout ça, ça vous fait réfléchir. Mais je vous invite, enfin, je vous ai un peu contredit, parce que d'emblée, je me suis contredit moi-même, parce que je vous ai déjà fait réfléchir, alors j'essaie de vous rattraper. Mais essayez d'oublier tout ce que vous savez sur ce texte, y compris le titre donné par la tradition. Juste d'abord, regardons ce qui se déroule en dehors des qui, des quoi, etc. Alors, ça va être un peu ardu au début. Alors, il y a deux personnes qui se connaissent, et qui sont rencontrés par une troisième personne. Hein ? Donc la troisième personne, on sait nous que c'est Jésus, les deux personnes, c'est des gens. Cette troisième personne est connue des deux premières personnes, mais ces deux personnes ne reconnaissent pas la troisième personne, bien qu'elles le connaissent. Et c'est au moment où les deux personnes reconnaissent la troisième personne que celle-ci, cette troisième personne, disparaît à leurs yeux. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit un hiatus, une tension, je ne sais pas comment l'appeler, entre la connaissance, je connais une personne, hein, et la reconnaissance de cette même personne. Voilà cette structure. J'espère que je ne vous ai pas égaré. Ensuite, on voit que la reconnaissance d'une personne coïncide avec l'impossibilité de voir cette même personne. Alors, connaissance plus vision implique non possibilité de reconnaissance. Mais aussi, reconnaissance plus connaissance implique non-visibilité de la personne. Invisibilité de la personne. Dans cette structure, donc, on voit, dans ce schéma, on va dire, c'est pas vraiment une structure, dans ce schéma, on voit qu'il est impossible, d'après ce texte, bien sûr, c'est pas universel ce que je dis, mais qu'il est impossible d'allier connaissance, reconnaissance et vision. Bon, c'est un peu aride, mais maintenant ça va se simplifier. J'espère que vous avez tenu jusqu'ici et que vous allez pouvoir continuer. Voilà. D'abord, je m'appuie sur le fait que nous sommes chez Luc. Hein, Luc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Luc, dans lequel nous nous trouvons, et aussi les Actes des Apôtres. Or, en étudiant l'évangile de Luc, on s'aperçoit que presque chaque morceau de texte, chaque péricope en langage technique, histoire ayant un début et une fin, c'est-à-dire pouvant être isolé à fin de lecture, et d'ailleurs ces morceaux de texte sont utilisés à des fins cultuelles, hein, parce que ce serait impossible de lire la Bible, toute la Bible à chaque culte, évidemment. Donc un morceau pouvant être isolé, pouvant être étudiés, tous ces morceaux d'histoire sont pour beaucoup des histoires, en tout cas chez Luc et dans la plupart des évangiles, sont beaucoup des histoires récapitulatrices de l'ensemble de l'histoire évangélique. C'est-à-dire qu'en les approfondissant, on s'aperçoit qu'on peut y déployer une catéchèse complète. Qu'en gros, tous les éléments théologiques importants y sont et peuvent être corrélés à de nombreux autres textes ou histoires pour en donner du sens un peu plus profond. On sait aussi, en étudiant l'écriture de Luc, que cet écrivain écrit presque toujours sur plusieurs plans. Le premier est anecdotique, dans le bon sens du terme, c'est une histoire racontée, et de cette histoire on peut se nourrir. S'alimenter, je dirais. Ainsi, par exemple, dans le récit dit des pèlerins d'Emmaüs, chacun peut se mettre à la place des pèlerins d'Emmaüs et bénéficier de la catéchèse qui est littéralement fournie dans ce texte, qui est un véritable un véritable dialogue catéchétique. Alors, qui est Jésus? C'est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, dit le texte. On apprend comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et qu'ils l'ont crucifié. On sait aussi donc que quelques femmes d'entre nous, et c'est intéressant cette formule, hein, quelques femmes d'entre nous, nous sommes des femmes, en gros, aussi, entre autres, nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau. Et ensuite, comment votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Bon, c'est un plan qui est littéral, qui est intéressant, autour de la notion de prophète, pour s'apercevoir que ce prophète avait une fonction messianique et que c'est pour signifier cette fonction qui le distingue des autres prophètes qu'il a été réveillé d'entre les morts. Mais il y a un deuxième plan. Un deuxième plan qui n'exclut pas le premier. C'est juste... On va dire, on creuse, hein ? Un deuxième plan, un peu plus profond, qui s'adresse aux premiers croyants au Christ, qui, 50 ans après la mort de Jésus, reçoivent ce texte de la part de Luc, c'est-à-dire qu'ils le reçoivent, évidemment, bien après, l'histoire, l'anecdote qui est racontée dans ce texte. Ce sont des croyants d'une autre génération, des gens pour qui ces pèlerins d'Emmaüs sont, au mieux, dans le meilleur des cas, de grands vieillards. Ces croyants de la deuxième génération sont appelés à travers ce récit à comprendre que Jésus finalement était impossible, en tout cas cela leur est suggéré, que Jésus finalement était-il impossible à reconnaître quand il marchait avec ses disciples? Et ces croyants de la deuxième génération, 50 ans après environ, sont appelés à saisir que de fait personne, peut-être, durant le temps de son ministère, ne l'a véritablement reconnu. Cette deuxième génération est appelée à concevoir qu'il fallait qu'il disparaisse pour pouvoir être reconnu. C'est intéressant d'un point de vue théologique, et c'est aussi intéressant du point de vue de l'histoire de l'Église. Parce qu'à ce moment-là, subtil, l'Église assure la mission de la visibilisation, la visibilité. Et souvent on dit que l'Église a été, on va dire que le socle de la création de l'Église institution est dans le récit de Pentecôte, qui va arriver bientôt, peut-être, mais ici aussi on a un acte fondateur, d'une certaine manière, dans ce passage de l'invisibilité du Dieu, pour parler en termes génériques, à la visibilité, 50 ans après, de l'Église en tant que début, racine d'une future institution grandiose. De la sorte, ces croyants de la deuxième génération, qui vivaient peut-être encore, et c'est fort possible, il y en a encore aujourd'hui, donc je suppose que 50 ans après, on pouvait vivre encore dans l'espérance d'un retour de Jésus, dans l'espoir d'une nouvelle visibilité de leur Christ, eh bien, ces gens-là sont appelés à comprendre que cet espoir est vain, non pas vain, dans le sens du désespoir, mais vain, car inutile, puisqu'il ne sert à rien, selon ce qu'on peut comprendre de ce texte, d'espérer une nouvelle visibilité, quand le signe courant de leur foi, à savoir la fraction du pain, hein, est là pour leur assurer non seulement la connaissance profonde de celui qui est devenu la pierre d'angle de leur foi, quand je dis connaissance profonde, je parle de reconnaissance, non seulement sa reconnaissance en tant que sauveur et libérateur, mais en plus, cette fraction du pain vient les assurer de sa présence réelle, qui est plus qu'une présence spirituelle, mais qui est une présence en acte, l'acte de la fraction du pain, l'acte de la fraction du pain entre frères et sœurs qui, eux aussi, elles aussi, de fait, se reconnaissent entre eux par cet acte-là. Il n'est plus besoin de voir, en fait, car il racontait encore une fois dans ce récit que le tombeau était vide, que les femmes ont stupéfié ceux qui les ont entendus, que celui-ci, la troisième personne, n'était plus dans le tombeau et que donc il n'était plus visible, tout simplement. Ressusciter implique sa disparition à la vue, sinon il ne s'agirait qu'une guérison spectaculaire, mais il ne s'agirait qu'un miracle de plus, par exemple comme le miracle de Lazare, que souvent on compare par métaphore à la résurrection du Christ, mais il y a une grande différence. Alors certes, Jésus s'est un peu baladé après la résurrection, mais à la fin il disparaît quand même, ça c'est évident. Et là, dans ce texte, c'est en forme ramassée et catéchétique, c'est dit ouvertement. Ressusciter, oui, implique la disparition à la vue. Alors Luc, qui, je le rappelle, a écrit aussi les Actes des Apôtres, va sursignifier l'importance de cette disparition en racontant l'événement de l'ascension pour bien dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de continuer à vouloir voir, car cette option interdirait, je dirais, parce que c'est, je reste quand même dans l'interprétation, interdirait la reconnaissance réelle, et que c'est cette reconnaissance qui est nécessaire pour donner à cette insurrection spirituelle qu'est le christianisme, naissant toute sa dimension. Voilà donc, chers amis, le second message destiné à la deuxième génération des croyants au Christ, qui devait enfin comprendre que désormais le Christ se reconnaît dans la fraction fraternelle du pain, et il aurait dû se reconnaître uniquement là, et non pas dans une église aux dimensions, on va dire, plus ou moins hérétique, hein. Quand ça devient trop gros et trop puissant, c'est plus, ça s'éloigne du christianisme originel, c'est, me semble, évident. Donc dans la fraction fraternelle du pain qui, elle, signifie l'Église. Visible. Et donc la présence réelle du Christ. Invisible. Et ce message-là est un parfait écho, en fait, à un interdit majeur dans la Bible, l'interdit de la représentation du divin, qui est interdit non pas gratuitement, hein. Oh tiens, voilà, Dieu qui veut pas se montrer, il est timide, non pas uniquement par respect, par crainte, mais tout simplement parce que la représentation crée une illusion sur la connaissance et entrave donc la pleine reconnaissance, c'est-à-dire la connaissance profonde. La représentation du divin entraîne l'habitude, et l'habitude est l'antidote d'une véritable spiritualité. Il n'y a pas de routine spirituelle. Il y a de la liturgie, mais il n'y a jamais de recommencement. La routine, c'est le recommencement. La vie spirituelle, c'est une vie où rien ne recommence, et c'est vraiment la définition du vivant, en fait. Rien ne recommence. Même les cellules de votre corps se renouvellent tous les jours jusqu'à la fin. Continuons par une anecdote. Les protestants réformés peuvent mettre des croix dans leurs édifices religieux. Beaucoup n'en ont pas, mais certains, par exemple les calvinistes en France, en ont. Mais ils n'y mettent pas la représentation de celui qui a été crucifié. Et pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'il a disparu à leurs yeux au moment où ils l'ont reconnu dans la fraction du pain. Et c'est ça qui est signifié. Et oui, c'est cette disparition qui a permis son intégration dans notre vie, alors que représenté, eh bien, il serait resté à part. Donc, il n'y a pas d'iconoclasme. Il n'y a... C'est de la logique, en fait, théologique de base. C'est initialement, le Dieu a disparu et ne sera jamais une idole. Et c'est là qu'on voit que Luc est réellement un théologien de choc, surtout pour ceux et celles qui aiment bien l'interpréter. Et il y a un troisième message destiné à chacun, et je souligne particulièrement ce message dans les temps difficiles que chacun peut vivre actuellement, qui offre à ceux et celles qui veulent comprendre un évangile qui n'est pas qu'une instruction de formule à connaître, mais qu'il concerne l'ensemble de notre existence dans ce cas-là de plus fondamental. Quand des gens proches ou lointains meurent, on dit qu'ils disparaissent. L'expérience la plus systématique de la population, c'est de perdre ses parents, par exemple. Et on dit qu'ils ont disparu. C'est d'ailleurs le titre de la rubrique nécrologique dans la plupart des journaux. Un jour, il y a assez longtemps, je me suis étonné de cette façon de dire la mort, disparu. Je m'en suis un peu moqué, je dois avouer. Bah, ils ne sont pas disparus, ils sont morts. Les gens sont là, et puis ils ont disparu, ça fait un peu magique. Ou même parfois, on les voit en train de disparaître. Disparition. Est-ce une façon d'euphémiser ce qui se passe, comme je le pensais au départ? Est-ce que c'est une façon de le rendre plus abordable? Disparu. Du coup, où sont-ils? Ont-ils été enlevés? Y a-t-il un espoir de les revoir? Et puis, en méditant, en grandissant, en me disant aussi que si la fonction populaire du langage insiste sur le mot disparu, et aussi en méditant ce fameux texte du jour, ben je me suis dit qu'en fait, c'était une bonne façon de parler de la mort, en parlant de disparition. D'autant plus que dans mon métier de pasteur, ben évidemment, je procède à des cérémonies qui parfois s'intitulent « culte de reconnaissance ». Ah, on dirait que toute la logique s'emboîte. Et très souvent, je constate que cette reconnaissance ne s'effectue réellement, n'ose peut-être se dire, parfois pleinement, qu'après la disparition. On dirait que pendant tout le temps de la vie commune, la prétendue connaissance de l'autre semblait dispensée de la reconnaissance. Non pas par absence de sentiment, mais comme un fait naturel. Mais quand cesse la possibilité de connaître, au sens primaire du terme, au plus précisément quand on s'aperçoit par le biais de sa disparition que la personne qu'on côtoyait tous les jours dans une forme d'habitude, la routine, était en fait une inconnue, alors la reconnaissance peut se déployer, et avec elle une forme de connaissance au travers des signes que cette personne aurait pu laisser, et là, Jésus, c'est la fraction du pain. D'ailleurs, cette reconnaissance est essentiellement positive, mais il lui arrive parfois que cette reconnaissance se révèle comme très négative. Donc à ce moment-là, cette personne connue de tous les jours faussement routiniers, mais qui se révèle brusquement dans sa disparition une inconnue, devient simultanément, dans le meilleur des cas évidemment, reconnue, bien que disparue. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce vraiment une tragédie? Et je réponds non. Il s'est juste passé que cette personne s'est intégrée à nous. Alors évidemment, cette intégration, elle va prendre parfois du temps et parfois elle sera impossible tant la disparition est une séparation atroce. Mais dans la plupart des cas, disons-le, cette intégration se met en place. Il semblerait que cette personne est désormais entrée dans notre communion et qu'elle est reconnue, même si on ne la voit plus. Nous n'avons pas besoin de la voir pour la connaître et la reconnaître. Évidemment, si nous avons aimé cette personne, c'est-à-dire si nous avons été en véritable lien avec cette personne, comme les disciples aimaient leur maître, mais comme nous, disciples potentiels, on va dire frères et sœurs, nous nous aimons les uns les autres. Amen.